Panorama économique.
Au sommaire, Kinshasa a abrité la semaine le 17e sommet de chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale australe. Les discussions tournaient autour de la libéralisation de la zone de libre-échange de cette organisation. Une autre rencontre qui s'est tenue dans la capitale, sur le 4e forum des experts en matière de budget venu de 8 pays de l'Afrique centrale. Plusieurs objectifs poursuivis, notamment l'examen de questions liées à la politique salariale. Le FMI félicite la RDC pour son progrès dans la préservation de la stabilité du cadre macroéconomique et la maîtrise de l'inflation. Déclaration faite au cours d'un point de presse à Kinshasa par le chef de mission de cette institution de Bretton Woods. Berry Forklin, Lou Tchaka et François Kadima à la présentation de Panorama économique pour ce samedi. Bonjour Berry Forklin, Lou Tchaka.
Bonjour François, bonjour à tous.
Nous avons comme invité pour analyser et commenter l'actualité économique ce samedi, Michel Somoué. Il est économiste. Alors, bonjour Monsieur Michel Somoué et bienvenue
bonjour,
dans Panorama
bonjour
économique.
Bonjour François Kadima.
Panorama économique, le dossier.
Joseph Kabila rappelle aux États membres du COMESA agissant en synergie la nécessité d'adopter une stratégie efficace d'utilisation des ressources naturelles pour le développement et la transformation des économies.
Le chef de l'État congolais et nouveau président en exercice du marché commun pour l'Afrique orientale et australe, COMESA en sigle, l'a dit ce mercredi à Kinshasa. Et c'était lors de l'ouverture du 17e sommet des chefs d'État de cette communauté regroupant 19 pays africains. Le président Kabila tient à la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange du COMESA pour accroître les économies et améliorer la qualité des vies des populations. Un extrait du discours de Joseph Kabila ici.
Nous devons rendre effective notre adhésion à la zone de libre-échange et aller de l'avant avec détermination et courage pour mettre en œuvre l'union douanière ainsi que le marché commun et davantage faire preuve de volontarisme dans la poursuite de notre programme d'intégration. Nombre de nos États s'inscrivent dans la perspective de conduire d'ici 15 à 20 ans nos pays vers le statut d'économie émergente. Il s'agit d'accroître le niveau de nos échanges, d'améliorer notre part dans l'économie mondiale, ainsi que le niveau et la qualité de vie de nos populations. Nous avons encore un long chemin à parcourir sur la voie de l'intégration de notre région. Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort pour que d'ici un an, et grâce à l'action conjuguée de nous tous, le COMESA se soit davantage rapproché de son objectif ultime de marché commun de l'Afrique orientale et australe.
À la clôture de ces sommets, plusieurs recommandations ont été formulées, dont l'engagement des États pour l'opérationnalisation de la zone de libre-échange Berry Franklin Tchaka.
Et les États membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe sont donc exhortés à la mise en œuvre des décisions relatives aux codes douaniers dans la région. Le ministre congolais des Affaires étrangères, qui a lu ces résolutions, a souligné que le COMESA tient à l'amélioration des infrastructures pour rendre libre la circulation des opérateurs économiques. Suivons.
Concernant l'union douanière, la conférence a demandé aux États membres qui n'ont pas encore transposé dans leur législation nationale ni appliqué les instruments de l'union douanière de transmettre des rapports d'étape annuels quant à la mise en œuvre et à la transposition des dix textes. Concernant l'industrialisation de la région COMESA, la conférence a souligné l'importance d'une industrialisation fondée sur les produits de base, la valorisation des minerais et la création de valeur ajoutée dans les États membres et a donné instruction au secrétariat d'élaborer au plus tard au mois de juin 2014 un projet de politique commune d'industrialisation à soumettre aux États membres pour examen. S'agissant de la zone de libre-échange tripartite, la conférence a invité les États membres du COMESA à finaliser les questions en suspens, notamment les offres tarifaires et les règles d'origine, à appeler les États membres du COMESA à faire en sorte que la zone de libre-échange tripartite constitue une amélioration des zones de libre-échange existantes dans la région tripartite et a donné instruction au secrétariat de donner la priorité requise au travail concernant les infrastructures et les piliers de développement industriel ainsi que la libre circulation des opérateurs économiques.
Paula Raymond Tshibanda, ministre congolais des Affaires étrangères. Nous vous rappelons que nous sommes dans Panorama économique et comme invité, Michel Somoué, il est économiste. Michel Somoué, vous êtes avec nous?
Je suis là.
Vous avez suivi les sommets, l'ouverture et la clôture. Et déjà, on veut que le pays du COMESA, il y a 19 pays dont la RDC, il y a également le Rwanda, le Kenya, pour ne citer que ce pays-là, on veut opérationnaliser la zone de libre-échange dans ce pays. Quelle analyse faites-vous de ce sommet?
Je dirais d'entrée de jeu que les discours sont très beaux, je les ai entendus. Les intentions sont très bonnes et même à encourager, il faut le dire. L'initiative de la création du COMESA est également une initiative que l'on ne peut pas, reprocher. Par contre, les conditions de l'existence d'un marché commun entre pays africains n'existent pas encore. Le président de la République l'a presque dit. Lorsqu'il dit le chemin est encore long à parcourir pour que nous puissions parvenir à la véritable intégration économique. Ils le savent. Mais je crois que, si la mémoire des uns des autres est très bonne, c'est depuis 1980 que nous sommes en train d'exécuter les différents instruments du plan d'action de Lagos, parmi lesquels figure le COMESA. Et il vous souviendra également que de tous les instruments de coopération mis en place, il n'y en a pas un seul jusqu'aujourd'hui qui a émergé suffisamment pour situer l'Afrique à un niveau de compétitivité acceptable. Qu'est-ce que nous représentons aujourd'hui dans le monde sur le plan du commerce international? Moins de 5%. Mais c'est qu'est-ce qu'on reproche aux pays africains, plus particulièrement à la RD Congo? C'est l'extraversion excessive de son économie. Mais comment la RD Congo va-t-elle aller vers l'intégration régionale lorsque elle est au départ une économie totalement extravertie, sans prendre le risque d'aggraver cette extraversion et donc de signer la mort de sa propre économie? Moi, je pense que les efforts devraient d'abord être fournis dans le sens de l'organisation de l'économie interne pour assurer d'abord cette intégration économique au sein du territoire national. Les efforts devaient être fournis d'abord dans le sens de l'organisation du marché intérieur de la RD Congo pour que nous sachions de quel côté se situe le surplus dont nous avons besoin pour exporter et de quel côté nous avons effectivement le déficit que nous devons importer. À ce moment-là, à ces conditions seulement, on peut se dire, voilà, nous pouvons nous ouvrir vers les autres pour voir lequel de nos voisins a besoin de nos produits excédentaires et de qui nous pouvons tirer au meilleur coût, au meilleur prix, ce qui nous manque à notre économie.
Alors, Michel Somoué, si on peut vous résumer, vous voulez dire donc que on a juste mis la charrue devant le bœuf?
Exactement. On a mis la charrue devant les bœufs sans même faire la lecture sérieuse de tout le passé depuis que nous existons comme économie, comme des pays décolonisés. Aujourd'hui, le vrai combat, c'est celui de la véritable indépendance économique, plutôt de la véritable indépendance, dont l'indépendance économique est la véritable matrice. C'est dans ce contexte-là qu'il faudrait situer le COMESA. Lorsque le COMESA n'existe que pour entériner cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur, il n'y a aucune chance d'assurer l'intégration économique africaine. Il n'y a aucune chance de parvenir à l'indépendance que nous recherchons, l'indépendance économique que nous recherchons.
Mais dans les résolutions, la conférence a également estimé qu'il faut améliorer les infrastructures pour rendre libre la circulation des opérateurs économiques. Et vous ne pensez pas que ces genres de résolutions peuvent permettre à organiser l'économie interne comme vous le voulez avant de nous permettre de collaborer avec d'autres pays?
Non, le problème est double. Le premier problème, c'est que quand les différents décideurs parlent des infrastructures, ils savent très bien qu'ils ont tous des budgets chétifs. Ils le savent très bien. Et donc, pour améliorer les infrastructures comme ils l'entendent, ils ont la main tendue vers l'extérieur. Ils attendent de l'aide des pays étrangers. C'est la même contre laquelle ils sont en train de s'organiser. Parce qu'en fait, le combat, c'est celui-là. Il faudrait que nous puissions arracher notre indépendance économique vis-à-vis de ceux qui sont en train de massacrer nos économies, qui sont en train de puiser nos ressources naturelles comme bon leur semble. Aujourd'hui, nos pays ne sont pas capables de financer les PME dont ils parlent. Ça pose un problème sérieux. Encore une fois, pour financer les PME, il faudra encore une fois tendre la main vers le Fonds monétaire, vers la Banque mondiale, vers tous les partenaires extérieurs. Encore une fois, la dépendance excessive.
Michel Somoué, nous allons vous garder. Prenons notre deuxième sujet de la semaine avec la tenue de la 4e édition du Forum des hauts fonctionnaires de budget des pays membres du Centre régional d'assistance technique pour l'Afrique centrale à Kinshasa.
Renforcer les l'État et consolider la démocratie par le budget, c'était ça le thème principal. Et le président de ces assises avait précisé que les experts venus de 8 pays de l'Afrique centrale examinent pendant 4 jours les questions liées entre autres à la politique salariale, à la gestion axée sur les résultats. Et Paul Matendo a pu rencontrer Aboubakar Maloun Guioni qui répond à ces questions.
C'est par le budget qu'on pourrait éventuellement réformer la démocratie. En ce sens que le budget consolide un peu l'action publique et permet donc à l'État de conduire la démocratie selon la vision qui est impulsée par les politiques budgétaires. On aura des thèmes qui vont concerner beaucoup plus l'ordonnancement, la gestion du circuit donc informatisé de la dépense, des thèmes ayant trait donc à la gestion salariale de l'État, ayant trait au budget axé sur le résultat. Donc il y aura autant de thèmes qui poursuivent le même objectif. Nous sommes en train de vouloir maintenant aider à ce que cette organisation-là puisse évoluer avec l'aide éventuellement des États membres et permettre d'avoir un élan et une vision qui puisse éventuellement internaliser tous les besoins donc cités par les États membres.
Oui, Michel Sommet, Kinshasa abrite à plusieurs rencontres. Il y a également celle-ci liée au budget. Entendre parler Aboubakar Maloum Goni, il faudrait penser au budget qui est axé sur les résultats.
Mais je crois que c'est déjà un grand pas que des économistes, ou plutôt que des nations tout simplement africaines, pensent à réfléchir sur la question budgétaire. Lorsque nous savons que la plupart de nos budgets sont également pris en charge pour près de la moitié par nos partenaires d'autrefois, nos anciens colonisateurs et autres. Donc il est important que nous puissions réfléchir sur la question budgétaire dans nos pays. Lorsqu'on parle d'un budget axé sur les résultats, je crois qu'il faudrait commencer par se poser la question relative à l'origine de nos ressources budgétaires. Est-ce qu'il ne faudrait pas, si l'on voudrait axer sa stratégie sur les ressources internes, c'est-à-dire principalement sur les ressources, comme on appelle les ressources propres, c'est-à-dire les recettes fiscales, est-ce qu'on devrait escamoter la question relative à l'organisation des systèmes financiers dans nos pays, étant entendu que la question budgétaire est un autre piège qui nous attend au sein du COMESA, parce que lorsque nous allons tendre vers l'union monétaire, il faudrait que les uns et les autres sachent que dans une union monétaire, la manœuvre devient un peu réduite par rapport, parce que la souveraineté monétaire n'existant plus, on ne peut plus se servir d'une politique monétaire pour corriger les erreurs budgétaires. Par contre, il ne va nous rester que la politique budgétaire à l'intérieur de soi. Nous allons donc effectivement commencer à marcher avec une seule béquille au lieu de dire comme autrefois. Et donc il faudrait que l'intelligence se focalise sur l'organisation du budget, sur l'organisation des sources de financement du budget, sur essentiellement sur la question relative au secteur, à l'organisation du système financier, notamment congolais, pour que nous sachions si aujourd'hui nous devons élargir notre assiette fiscale, comment devons-nous faire par rapport à l'activité économique interne qui doit générer ses ressources propres.
Alors quel lien faire entre la politique salariale et la gestion du budget axé sur le résultat? Parce que c'est ce qui fait l'objet de cette rencontre.
Je peux vous dire que la politique salariale dont on parle suppose au préalable qu'il y ait d'abord des entreprises productives, des entreprises qui engagent du personnel, des ressources humaines. Cela suppose que les ressources humaines doivent être considérées chez nous comme étant les facteurs de production à même titre que le capital. Vous savez que dans nos pays, les ressources humaines sont les mal payées, les moins payées, ce qui n'existe pas, le plus mal payé, il faut dire ainsi, excusez-moi le mauvais français par rapport à cela, mais du monde. Pourquoi? Parce que en réalité, les entreprises n'ont jamais considéré des ressources humaines comme étant un facteur de production prépondérant. Et vous trouvez la plupart des entreprises ici, en commençant par l'État lui-même, qui paye les fonctionnaires 80 000 francs, 50 000 francs, moins de 100 dollars pratiquement par fonctionnaire, en sachant que un fonctionnaire ne peut même pas vivre une semaine avec 100 dollars. Il est quand même important de dire que, au-delà de la politique salariale, il faut qu'on ait une bonne politique distributive, une certaine justice distributive du revenu. Lorsque dans ce pays, on se venait parler de la République tout à l'heure, lorsque dans ce pays on considère le revenu national comme étant une propriété commune de tous les citoyens, il faudrait qu'on se le partage, qu'on se le distribue équitablement. Cela permet déjà d'avancer, de faire un pas contre la corruption.
Voilà, autre actualité de la semaine. La RDC a réalisé des progrès en 2013, notamment dans la transparence et la gestion de ressources naturelles, la préservation de la stabilité macroéconomique et la maîtrise de l'inflation.
Oui, François, cette conclusion appartient à une délégation du Fonds monétaire international FMI à l'issue d'une mission qui s'est déroulée dans le cadre des consultations prévues dans les statuts du FMI. Un point de presse a été tenu conjointement par le FMI et le ministre délégué aux Finances le vendredi dernier. Norbert Toué, qui a conduit cette délégation du FMI, s'exprime ici au micro de Paul Matendo.
2013, la croissance économique a été très forte. Et je pense que ça n'a jamais atteint ce taux de croissance tiré par le secteur minier avec essentiellement le cuivre. Nous parlons aussi de l'inflation. L'inflation est tombée à un niveau historiquement bas en 2013, en glissement annuel de décembre 2012 à décembre 2013, nous parlons de 1,1% d'inflation. On dirait un pic du taux de change. Je pense que ici, le franc congolais a connu une stabilité remarquable. Donc, sur ce fait, et comme le ministre l'a indiqué, nous avons eu une convergence de vues sur les 5 thèmes principaux qu'il a indiqués, qui ont fait l'objet des discussions.
Oui, c'était là Norbert Toué qui conduisait à Kinshasa la délégation du Fonds monétaire international. Alors, monsieur Michel Soumé, vous êtes avec nous.
Oui, je suis là.
Vous avez suivi monsieur Toué du FMI, qui apprécie, en tout cas, il y a des félicitations qui viennent du FMI par rapport à la stabilité du cadre macroéconomique, donc la maîtrise d'inflation. Ça, quel impact sur les vécus quotidiens de la population?
Écoutez François, je ne sais pas du côté du Fonds monétaire international ou si c'est la mauvaise foi ou si c'est la naïveté qui les pousse à dire n'importe quoi. Parce que ce n'est pas les premières félicitations que nous avons du Fonds monétaire international. Vous savez que dans les années 80, nous étions plébiscités le meilleur élève du Fonds monétaire international pendant que le peuple croupissait la misère la plus noire. C'est ça le tanking, comme on aime bien le dire, le champion de la rigueur. Et vous savez aussi que Madame Lagarde, je crois, qui est la DG du Fonds monétaire international...
Oui, Christine Lagarde.
N'a pas tardé de félicitations pour le gouvernement actuel, pour sa maîtrise du cadre macroéconomique. Mais il y a un indicateur qui devrait nous prouver si le Fonds monétaire international est sincère avec lui. Pourquoi est-ce que le gouvernement peut faire des efforts de gestion, des efforts de bonne gouvernance pour avoir un cadre macroéconomique stabilisé? Pourquoi tous ces sacrifices que l'on impose à la population en gérant les salaires? C'est pour entrer en programme avec le Fonds monétaire international. À partir du moment où le Fonds monétaire international est en train de bavarder avec des félicitations, sans conclure un programme complet avec la RDC, je me dis ceci, parce qu'on parle de la stabilité du cadre macroéconomique, commençons par le taux d'inflation. Comment le Fonds monétaire international, une institution si experte, peut-elle se tromper en considérant qu'on peut calculer l'inflation sur la base d'une monnaie qui n'assume pas la fonction des talons des valeurs? C'est pas possible. À partir du moment où le franc congolais n'est pas l'étalon des valeurs dans nos pays, dans aucune économie du monde on ne peut utiliser cette monnaie-là comme indicateur de base pour calculer l'inflation. Ça n'existe pas. Donc, et de la même façon qu'on parle du taux de change, c'est aussi un prix d'une monnaie en une autre. Une monnaie ne peut exprimer viablement un prix que dans la mesure où elle assume la fonction d'étalon des valeurs. Le franc congolais ne l'assume pas. C'est le dollar américain qui fait cette fonction dans notre économie. Donc, parler de la stabilité de l'inflation, c'est de la foutaise. Parce qu'on sait que tous les jours dans ce pays, les gens sont dans la misère tous les jours et les gens souffrent. C'est vérifiable. Mais par rapport au dollar américain, écoutez, que le franc congolais garde la même valeur, dit-on, soit figé au même. C'est comme qui dirait un dollar américain égale un dollar américain, un franc congolais égale un franc congolais, ça va rester comme ça éternellement. Ça, on ne peut pas en discuter. Parce que le franc congolais n'est qu'une simple transcription du dollar américain. Ce n'est pas une monnaie qui assume les fonctions d'autres monnaies. Donc on ne peut pas imaginer des trucs comme ça. parler de la croissance économique, comme on le dit. Mais écoutez, ça, ce n'est pas une statistique simple. La croissance économique signifie l'augmentation de la quantité des biens mis à la disposition de chaque citoyen congolais. C'est ça la croissance économique, c'est l'augmentation des biens matériels qui sont offerts à chaque citoyen congolais. Mais nous, ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Nous ne vivons pas cette croissance-là. Je reviendrai encore à la station pour dire que... Regardez, je suis à l'université de Kinshasa pendant que je passe cette émission. Regardez comment le Minerval monte chaque jour et en dollars américains. Vous parlez de quelle façon qui est maîtrisée. Dans toutes les écoles ici, tout monte, même si on dit l'indice de prix, c'est un indicateur, c'est un panier de biens qui... Mais prenez même les 10, 15, 20 biens qui entrent dans l'indicateur de prix, vous verrez que tout se monte chaque jour et sans arrêt. Donc parler de la maîtrise du cadre macroéconomique, parler d'un taux de croissance imaginaire comme on le fait, alors qu'on sait très bien que le Congolais, l'économie patauge, l'économie est en train de patauger au jour le jour. Les concertations nationales l'ont dit, la misère s'accroît, elle s'amplifie. Je crois que c'est du mensonge, et ça c'est pas sérieux. À l'égard d'un peuple que l'on respecte, il faut dire, demander au Fonds monétaire international d'être un peu plus sérieux avec les citoyens congolais, parce que nous ne sommes pas des idiots, nous sommes des intellectuels.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural... Les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
En bref, la conférence débat sur les banques organisée en Mbandaka par le grand séminaire Saint-Jean-Baptiste de Bamanya. La thème a défini la bancarisation comme la proportion et le nombre de personnes qui ont un compte en banque et qui bénéficient des opérations bancaires. À ce jour, la province de l'Équateur compte 4 banques commerciales et très peu d'Équatoriens donc ont des comptes en banque. Une situation qui justifie le fait que l'opération de la bancarisation de la paye des fonctionnaires initiée par le gouvernement connaît des sérieux problèmes à l'Équateur.
Oui. La DGI ICRO sensibilise les PME et contribuables sur le paiement de l'impôt. Selon le directeur provincial, il s'agit de vulgariser les ordonnances signées par le chef de l'État le 23 février de l'année dernière. Des ordonnances lois qui permettent aux petites et moyennes entreprises de payer les impôts selon les catégories.
En bref, également la baisse de prix de certaines denrées alimentaires à Salama Bila, nous sommes dans le Maniema. Un sac de 50 kg de farine de froma quitte de 50 000 francs congolais à 36 000 francs congolais. Un litre de carburant quitte de 3 500 à 2 800 francs congolais. Une situation qui s'explique par l'arrivée de plus de 10 véhicules depuis l'ouverture de la route réhabilitée par la société minière Bandro Mining.
Enfin, au Nord Katanga, les cimenteries Interlac sont aujourd'hui confrontées aux difficultés dans la chaîne de production du ciment à Kabimba et Katana. Les cas de l'usine de Kabimba, par exemple, parlent plus. Quelques mois après son installation à Kalemi, le directeur des ventes évoque des problèmes qui empêchent l'industrie de tourner normalement.
Voilà, monsieur Michel Sommet, vous êtes là avec nous.
Oui, je suis là.
Oui, un commentaire à placer sur l'une ou l'autre actualité passée tout à l'heure.
Je parlerai un peu de la bancarisation, parce qu'on en parle un peu trop, et moi je considère que c'est une injure pour un peuple et une humiliation pour l'intelligence nationale que de considérer la bancarisation comme un exploit de la part d'un gouvernement. J'estime sincèrement que ce n'est pas sérieux. La bancarisation, la TMB vous a expliqué ça très clairement, il l'a dit, c'est la proportion des individus qui disposent de comptes bancaires par rapport à la population totale. Je crois que c'est une activité normale. Chacun de nous est libre de dire, je veux garder mon argent dans ma poche ou je veux le garder dans mon compte en banque. C'est simple que ça. C'est tout à fait naturel. C'est une forme de, pas une forme de, une façon de garder son argent là où on le veut. Qu'on me dise que le gouvernement a pris des mesures pour réduire la fraude à la paye, le détournement des salaires des individus qui se faisaient en prenant la bancarisation, c'est simplement encore une faiblesse. Parce que si le gouvernement connaît très bien les auteurs de ces fraudes, les auteurs de ces détournements, ces voleurs d'argent, il n'avait qu'à le poursuivre. On devrait voir les gens très bien, je sais pas, le gouvernement, parce que ils ont volé l'argent des militaires, ils ont volé l'argent des enseignants, etc. Nous n'avons pas vu ça. Mais vous prenez l'argent, vous le mettez dans le compte vous obligez les gens à ouvrir des comptes en banque, pendant que ces gens savent que leur revenu ne leur permet pas d'avoir de compte en banque, vous augmentez pour ces individus ce qu'on appelle en économie des coûts de transaction, parce que désormais, pour que chacun puisse avoir son salaire, il doit aller s'aligner à la banque et faire la file, éventuellement payer des frais bancaires qui n'étaient pas prévus. Donc vous augmentez des coûts à ces gens-là et vous dites que vous n'avez fait que déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. La bancarisation est un fait normal, d'ailleurs un fait individuel. Ce n'est pas une décision de politique économique. Ça doit être dit comme ça. Et ce n'est donc pas un exploit pour lequel un gouvernement sérieux puisse se vanter, c'est-à-dire pour dire, voilà mon programme économique, voici mon bilan, j'ai fait la bancarisation, c'est ridicule. Ce que nous avons toujours décrié, que nous devons poursuivre comme stratégie économique, c'est de pousser les banques à mettre en place des instruments, des produits financiers suffisamment attrayants pour que les Congolais puissent avoir la culture de garder leur argent en banque. Mais pour que les Congolais y parviennent, il est aussi important, et c'est là l'importance de l'atelier actuel des fonctionnaires du budget qui parlent de la politique salariale, il est important que le revenu des citoyens congolais soit suffisamment élevé pour que la proportion de l'épargne qui va en banque ne soit pas un suicide pour celui qui met son argent en banque. Parce que n'oubliez pas qu'en économie, l'épargne constitue un bien de luxe. Un bien de luxe est un bien que l'on ne peut pas conseiller à un citoyen pauvre. Vivre du luxe, c'est du snobisme, ce n'est pas économiquement, ce n'est pas rationnel. Donc l'épargne étant un bien de luxe, on considère que ne peuvent épargner que ceux qui sont riches ou ceux qui craignent un futur pas très clair. Mais alors, moi je pense que des politiques devraient s'orienter vers l'organisation du secteur bancaire qui est en train de rançonner le citoyen congolais à travers des taux d'acquitteur cruels, atroces, vers le système bancaire qui multiplie des frais bancaires de tout genre pour simplement rationner encore une fois le pauvre congolais. Des politiques devraient s'adresser vers le gouvernement et vers les entreprises pour une bonne distribution du revenu à travers le pays et pour une augmentation effective de ce PIB du revenu national qui permettra à chacun d'augmenter son train de vie et donc être capable de constituer une épargne qui pourra profiter à ceux qui investissent dans le pays.
Michel Somoué, nous allons nous quitter là dans Panorama économique pour ce samedi. Merci d'avoir répondu à nos questions dans cette rétrospective de la semaine. Berry, on va retrouver les auditeurs la semaine prochaine.
On retrouve les auditeurs la semaine prochaine et on dit merci encore une fois à notre invité, M. Michel Somoué, un analyste économique qui nous a apporté un peu plus de lumière sur l'activité économique de la semaine.
Voilà, Michel Somoué, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, François. C'est moi qui vous remercie, Franklin. Bonne journée, bon week-end à vous.
Ok, merci. Cette émission a été coordonnée par Nicole Ngaka sous les techniques de Héritier Sidiakala. Nous allons vous retrouver lundi à 18h15 pour Écho d'économie. Donc c'est toute la semaine et le week-end, c'est dans Panorama économique. Merci beaucoup, au revoir.